Bonjour, je suis Cyril Cazot, je suis agent immobilier depuis 10 ans, je suis le directeur des agences immobilières Lyon Rose, qui représente 5 agences et 25 conseillers immobiliers.
Et je vais vous expliquer dans cette formation comment finir enfin avec la vente entre particuliers. On sait que le particulier est notre principal concurrent, on sait qu'il réalise à peu près 30% des ventes, c'est quelque chose que tout le monde a entendu. Par contre, on a un petit peu de mal à se rendre compte de ce que ça représente. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici toutes les enseignes qui représentent à elles toutes 30% du marché. C'est-à-dire que si on les enlevait, si demain dans votre ville où vous soyez, vous vous réveillez un matin et il n'y a plus toutes ces enseignes, c'est comme si le particulier n'existait pas. Vous voyez donc bien que le principal concurrent, c'est le particulier et pas vos confrères. Dans cette formation, dans un premier temps, nous verrons pourquoi c'est notre concurrent le plus féroce et comment on en est arrivé là. Dans un second temps, nous verrons comment argumenter pour bien contrer les croyances du particulier. Et enfin, je vous délivrerai quelques tips, trucs et astuces pour répondre aux objections les plus courantes. Vous êtes prêts? On y va. Dans cette deuxième partie, on va voir comment expliquer notre métier aux particuliers pour contrer ces croyances. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le parcours de vente que s'imagine le particulier avec la réalité. Donc sur le visuel que vous voyez là, vous voyez le parcours de vente avec un professionnel, donc avec toutes les étapes de la vente que vous connaissez bien, évidemment c'est résumé. Mais ce qui est important, c'est de voir en bleu ce que pense le particulier, c'est des choses que le particulier sait. Il sait qu'il doit estimer son bien, il sait qu'il doit le commercialiser, qu'il va avoir une offre, qu'il y a un compromis et une vente. Ça, c'est quelque chose qu'il sait. Et en rouge, c'est des choses qu'il ne sait pas forcément, ou en tout cas qu'il n'a pas apprécié à sa juste valeur. Et du coup, c'est là-dessus que nous, en tant que professionnels, on doit appuyer. Et quand vous regardez ça en tant que professionnel, vous vous rendez bien compte que c'est des choses pour nous qui sont aussi indispensables que les choses en bleu du particulier. Donc la première étape de ce parcours de vente, c'est évidemment l'estimation du bien. Derrière, on a la réflexion de la stratégie de mise en vente. Ensuite, on a la mise en valeur du bien. Ensuite, la commercialisation. Puis, la découverte des acquéreurs qui arrivent via cette commercialisation. Évidemment, des visites, mais adaptées, qui entraînent, on l'espère, une offre d'achat ou une négociation, puis le compromis de vente, puis le suivi du dossier, et enfin la vente finale chez le notaire. Du coup, quand on voit ce parcours client et quand on voit ce que le client a en tête et ce que nous, on est capable de faire, il y a des arguments que j'ai déjà entendus ou peut-être même utilisés et que je me suis rendu compte qu'ils ne marchaient pas pour contrer le particulier que je vous déconseille. Le premier argument, quand un particulier veut vendre tout seul et qu'on veut lui faire comprendre qu'il faut qu'il passe par nous, c'est de lui dire « moi, je connais le prix ». Je ne vous conseille pas cet argument-là parce qu'en fait, il faut toujours vous dire 13 275 euros, ça me coûte ça. Qu'est-ce que j'ai en face? Il connaît le prix. Ok, c'est vrai. Je l'ai fait venir chez moi. C'est vrai que c'est un agent immobilier. Il est spécialisé de son secteur. Il connaît le prix. Très bien. Mais est-ce que ça vaut 13 275 euros? Sachant qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut facilement avoir des estimations de plus en plus proches de la réalité, même si j'aime pas trop dire ça. Ensuite, pour 13 275 euros, certains clients diront, bah, ok, c'est vrai que tu connais le prix, mais en fait, tu me le donnes gratuitement. Donc, je vais prendre ton prix et je vais mettre en vente tout seul. Donc, cet argument-là, je vous le conseille pas. En tout cas, pas tout seul. On va revenir après dessus, mais tout seul, faites-moi confiance parce que je connais le prix. Bah, non, en fait, parce que tu m'as donné le prix, maintenant, je sais faire le reste. Le deuxième argument, c'est de dire, bah, moi, je serai très disponible pour les visites. Je suis disponible pour les visites pour 13 275 euros, 6 mois de salaire. 6 mois de travail, peut-être qu'il peut, surtout en ce moment où dans certaines régions les ventes vont très vite, peut-être qu'il peut se dire je vais poser une semaine et moi aussi je serai très disponible pour les visites. Et c'est une semaine de congé, ça ne me coûte pas 13 275 euros. Donc en fait, cet argumentaire-là de dire je suis disponible pour les visites ou je suis dispo, 13 275 euros. Donc vous voyez qu'il en faut plus, quoi. Donc cet argument, en tout cas tout seul, je ne vous le conseille pas non plus. Troisième argument, pourquoi passer par un professionnel ou un particulier? Parce que moi je vais sécuriser la vente. Ça, j'entends souvent. Ah, nous, on sécurise, on demande au client un accord bancaire. Oui ou non, en fait. Là, vous êtes face à quelqu'un qui veut vendre tout seul. Il y a plein de profils qui peuvent vendre tout seul. On peut avoir quelqu'un qui veut vendre tout seul parce qu'il est sûr d'y arriver, parce que franchement, pour 13 275 euros, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, etc. Lui, le fait que vous sécurisiez la vente, franchement, c'est pas quelque chose qui va l'impacter parce qu'il va se dire, ben moi aussi, je vais leur demander, en fait, moi j'ose demander des choses aux gens, moi aussi, je vais leur demander s'ils sont allés voir leur banque et je vais leur demander aussi une attestation. Il peut le faire. Par contre, c'est vrai que certains clients qui sont un peu plus timides ou qui osent pas, ou qui sont un peu plus dans la sécurité, qui peuvent avoir peur, c'est un argument qui peut marcher. Mais quand vous le délivrez là, vous le délivrez à tout le monde et il y a certains clients pour qui ça ne va pas marcher. Donc, avant de le délivrer, il faut être bien sûr que ça va marcher. Moi, par exemple, si vous me dites ça, sincèrement, ça n'a aucun impact sur moi si je suis demain un vendeur particulier. Donc, ça, d'autres choses vont avoir des impacts, mais pas cet argumentaire-là. Donc, en fait, ce n'est pas forcément un argumentaire magique. Et c'est ça qui est rigolo dans la vente entre particuliers, c'est que comme c'est très difficile, eh ben, on a tous à peu près des fois des phrases magiques. On imagine que le particulier va dire « je vends tout seul », hop, phrase magique, je sécurise la vente. Ah, bah ok, d'accord, tenez 13 275 euros. Non. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué. Et on va voir dans cette partie-là que, évidemment, chaque argument a de l'impact. Si vous réfléchissez par rapport à vous, je n'aurai pas le même argument pour chacun d'entre vous, etc. Donc ça, il va falloir qu'on détecte tout ça et on va le voir enfin. Le dernier point aussi, qui va un petit peu avec « je sécurise la vente », mais c'est « je vous accompagne jusqu'au bout, je serai là pour vous tout le temps, je vous accompagne jusqu'à la fin, etc. etc. » C'est un bon argument, mais pareil que pour le précédent, ça ne va pas toucher tout le monde. Ce n'est pas universel comme argument. Et toujours pareil, 13 275 euros, je vous accompagne jusqu'à la fin. Sachant qu'en plus, les clients, les particuliers ont une confiance très grande en leur notaire. Pour eux, une fois qu'ils ont passé le bébé au notaire au moment du compromis, bah, l'accompagnement jusqu'à la fin, c'est le notaire qui va s'en occuper en fait. Je ne vois pas ce que l'agent immobilier il va faire ici. Donc oui, qu'il soit là pour moi jusqu'à la fin et que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je l'appelle. Ok, il va venir faire le relevé des compteurs le jour de la vente. Ok, 13 275 euros pour aller relever 4 chiffres. Vous voyez, il peut réfléchir comme ça. Donc en fait, cette phrase-là, pareil que la première, elle ne va pas marcher tout le temps. Par contre, elle peut marcher avec des personnes qui sont sensibles à l'accompagnement, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont peut-être un peu peur, etc. Cette phrase-là, elle peut marcher avec eux. Mais entre nous, s'ils sont déjà un peu comme ça, s'ils ont un peu peur, s'ils ont besoin d'être rassurés, ce n'est pas forcément la catégorie qui va avoir envie de le mettre en vente sur le bon coin. Donc, on utilise un argument pour une catégorie que vous n'avez pas forcément face à vous. Donc, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de balancer ça comme ça. Je ne vous dis pas de ne pas les utiliser, ces quatre phrases, hein, qu'on soit clair. Mais en tout cas, ce n'est pas des phrases magiques qu'on peut dire à tout le monde. C'est des phrases que peut-être que vous allez pouvoir utiliser plus tard, quand vous allez détecter là où ça fait mal. Quand vous allez détecter qu'en face des 13 275 euros, je peux mettre un truc bien lourd, clac, qui fait pencher la balance. Et quand on met ce truc lourd, là, je peux rajouter, je sécurise la vente, je serai là avec vous jusqu'au bout, etc. Parce que ça va rajouter du poids. Mais cette phrase toute seule, elle est trop légère. Donc, vous allez comprendre qu'en fait, il suffit d'expliquer notre métier et l'avantage de ça, c'est que vous avez déjà toutes les réponses. Je vous propose de faire un exercice, de télécharger le PDF qui est joint et de prendre 10 minutes pour faire ça avant de reprendre la formation avec moi. Vous allez voir sur ce PDF, vous avez toutes les étapes de la vente, de l'estimation à la vente en passant par les visites, la commercialisation, etc. Et ce que fait le particulier quand il met en vente tout seul et ce que nous on fait, ou ce que vous faites dans votre agence, dans votre réseau, etc. C'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire parce que vous le savez tout ça, et on va en reparler après, vous allez voir qu'on a tous à peu près les mêmes réponses. Vous le savez, mais ça permet en l'écrivant de se rendre compte vraiment de l'impact qu'on a, nous professionnels, et du coup de choisir ce qu'on va utiliser comme argument, parce qu'il va falloir choisir des arguments que lui, des actions que lui ne peut pas faire. Voilà, j'espère que vous avez fait l'exercice. Je pense qu'il a été assez facile, que vous avez rapidement rempli les cases et que vous vous rendez compte sous les yeux noir sur blanc de l'ampleur de l'écart entre un particulier et un professionnel. C'est là-dessus qu'on va jouer pour éviter que le particulier vende tout seul. C'est là-dessus qu'on va jouer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un métier assez particulier. Et si on change de métier, si demain, vous avez besoin de refaire votre électricité, si demain, un particulier a besoin de refaire son électricité, quand il va appeler un électricien, il ne va pas, sur le devis de l'électricien, il ne va pas regarder les pièces et la main-d'œuvre et se dire « Ah bah, pour 900 euros, je vais peut-être le faire moi. » Sauf s'il sait faire. Mais on n'est pas à 30% des gens qui savent faire l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, 90% des gens, 95% des gens vont prendre le devis tel qu'il est. C'est comme un avocat. Si vous allez voir un avocat pour quelque chose que vous ne savez pas faire, création des statuts d'une société, vous ne vous dites pas « Je vais le faire moi pour économiser les frais de l'avocat. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes, que ce soit l'électricien ou l'avocat, on est en mode « je ne sais pas faire, donc soit je paye un pro, soit je ne le fais pas. » Mais il n'y a pas la troisième option, je le fais tout seul, très rarement. D'accord ? Évidemment qu'on peut aller chercher des statuts sur Internet, évidemment qu'on peut aller voir des tutos sur YouTube pour faire son électricité, mais on voit que c'est quand même très très difficile et on se moque des gens qui font ça alors qu'on ne se moque pas des gens qui vendent tout seuls. Pourtant, ils sont dans la même catégorie. Notre principale arme, ça va être de se positionner sur des choses que le particulier ne sait pas faire pour être dans la même position qu'un avocat, un médecin, un électricien. On va être dans la position où je fais des choses et du coup les 13 275 euros, ils disparaissent parce que on fait des choses que lui-même n'imagine même pas. Donc en fait, il ne va même pas réfléchir à nos honoraires. C'est que c'est indispensable de passer par nous. Mais pour ça, il faut lui expliquer ce qu'on va faire et on va voir ça tout de suite. Pour expliquer au particulier ce que nous, on est capable de faire et que lui n'est pas capable de faire, il faut qu'on reste quand même dans son schéma. En gros, son schéma, il est en 3 étapes. Le prix, la commercialisation, la négociation avec le closing. Du coup, on va revoir ces 3 points. Quand on regarde le parcours client, le client, au niveau du prix, il sait qu'il faut qu'il ait le prix. Et s'il pense avoir le bon prix, il pense qu'il vendra. Voilà, tout simplement, il pense que s'il a le bon prix, il vendra. Il ne réfléchit pas plus loin que ça. D'accord ? C'est pour ça qu'il va vous faire venir pour avoir une estimation et il va le mettre en vente. Nous, il va falloir qu'en face de ça, on mette des choses que lui n'est pas capable de faire, des choses professionnelles, comme la stratégie de vente, la cible, à qui on va s'adresser. Est-ce que c'est un appartement qui va être plutôt primo-accédant? Est-ce que c'est un appartement qui va plutôt être pour des personnes âgées? Est-ce que c'est une maison pour des quarantenaires? Si elle a 5 chambres, on peut imaginer qu'il y a quand même des chances que ça soit une grande famille, etc. etc. Tout ça, c'est là-dessus qu'il va falloir que nous, on soit vraiment différents. Le client vous parle de prix. Combien vaut ma maison? 500 000 euros. Nous, en face, il faut qu'on dise environ 500 000 euros parce que déjà, ce n'est pas une science exacte. Et ça, vous le dites tout le temps. Et même vous, vous vous rendez compte, des fois vous prenez un mandat 30 000 au-dessus du prix que vous pensiez, vous le vendez. Et des fois vous prenez un mandat au prix que vous pensiez et vous ne le vendez pas et vous finissez par baisser le prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une science exacte. On voit bien que dans un immeuble, il y a un appartement premier étage exposé sud qui peut se vendre tel prix et le même, mais exposé ouest qui se vend moins cher parce qu'il n'est pas rénové pareil, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'acheteur. On peut aussi avoir un acheteur qui tombe du ciel et qui achète très cher, etc. Donc en fait, dans l'immobilier, il n'y a pas de science exacte sur le prix. On voit que déjà par rapport à la cible, quand vous mettez un produit en vente, il faut réfléchir à la cible et ensuite à la commercialisation. Et la commercialisation, ça va être une commercialisation directe par rapport à la cible. Et déjà, quand vous allez sur ce terrain-là, vous êtes sur un terrain beaucoup plus spécialiste et quelque chose que le vendeur particulier a forcément plus de mal, lui, à analyser. On peut imaginer que lui pense qu'il va mettre son bien sur le bon coin. On peut imaginer que si vous vendez un appartement qui touche une clientèle âgée, ce n'est pas forcément une clientèle qui va sur le bon coin. C'est peut-être une clientèle, par contre, qui va être intéressée par un magazine ou qui va regarder les annonces en vitrine. Donc, en fonction de la cible, on va aussi choisir la commercialisation. Et notre métier à nous, ça va être ça. Donc, quand on va parler du prix au client, on va lui dire une fourchette et on va lui dire maintenant, nous, notre métier, c'est d'essayer que vous vendiez au max. C'est d'essayer que vous en ayez le maximum. Et pour ça, on va déterminer ensemble la cible de votre produit. Peut-être qu'on ne vendra même pas à quelqu'un de la cible, mais ce n'est pas grave. Là, on est dans la pré-commercialisation, donc on va réfléchir à la cible. Et en fonction de la cible, à une stratégie de commercialisation, à comment on va faire. Et votre rôle en tant qu'agent immobilier, c'est de mettre en valeur le bien. On est dans une vente, on est dans une stratégie. Et forcément, la cible, c'est quelque chose qui va être très, très important. Quand Apple vend ses iPhones, ils ont une certaine cible, ce qui leur permet de vendre un maximum. Derrière, une fois qu'on a la cible, on va avoir comment je vais communiquer avec eux et comment je vais mettre en valeur votre bien. Pour ça, moi, j'utilise ces 2 photos qui peuvent avoir un impact, que vous pouvez mettre dans votre book, qui peuvent avoir un impact auprès des vendeurs. Sur la première photo que vous voyez, on imagine une voiture qu'on vient de mettre en vente sur un grand parking au milieu des autres. Cette voiture-là, voilà, je la mets en vente, elle a un prix affiché et elle est au milieu des autres. Ça, c'est un petit peu ce que va faire le particulier en mettant 3 photos sur des sites PAP. La deuxième photo, on voit la même voiture mise en valeur sur une estrade nettoyée avec des projecteurs, etc. Ça, c'est votre métier. Ça, c'est vous ce que vous allez faire. Je vous pose la question et c'est une question que vous pouvez poser à votre client. D'après vous, c'est la même voiture, même kilométrage, même année, tout ce que vous voulez. D'après vous, laquelle on vend plus cher? Et évidemment, c'est celle qui est mise en valeur. Et du coup, la différence de prix, déjà, celle-ci, déjà, gomme vos honoraires. On en est juste au début. On est juste à la commercialisation. On n'a pas fait tout le reste. Et on va voir qu'après, votre plus-value, elle continue à croître. Mais déjà, à ce niveau-là, au niveau de la cible et au niveau de la stratégie de commercialisation, si vous expliquez ça bien, si vous avez une vraie stratégie à expliquer à votre client, déjà ici, les 13 275 euros vont commencer à disparaître un petit peu parce que vous faites des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas la mettre sur une estrade, il peut la mettre sur un parking sans problème. Il sait faire et tous ses potes lui disent « tu mets sur le bon coin, tu vas avoir plein d'appels ». Ok, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir plein d'appels à un certain prix ou il veut mettre en valeur son bien pour vendre encore plus cher? C'est la question qu'il faut vous lui poser. Du coup, psychologiquement, votre vendeur face à vous, évidemment qu'il a ses 13 275 euros, mais psychologiquement, il faut que vous arriviez à mettre d'un côté les avantages de passer par une agence et de l'autre, le risque de le faire seul. Et c'est ces deux choses regroupées qui vont vous permettre de justifier vos honoraires et du coup, de gommer son envie de le mettre en vente tout seul. Donc là, pour le prix, la commercialisation, les avantages de passer par votre agence, bah ça, vous les connaissez, vous venez de les écrire en fait. Donc, en fonction de votre agence, en fonction de vos outils, en fonction de votre façon de travailler, il faut que vous mettiez en avant ces avantages. Il faut les mettre en avant, mais insister dessus. Donc, l'avantage d'une photo, des photos professionnelles, il y a très peu de chances qu'un particulier le fasse, d'accord? On sait que les photos, le particulier, il en prend 3 avec son smartphone. Pourquoi 3? Vous avez déjà la réponse, parce qu'après, c'est payant au-dessus. Donc, en fait, il met généralement que 3 photos sur le site le plus connu, parce que derrière, c'est payant. Nous, on en met 10. Les photos d'un professionnel, on sait qu'elles ont beaucoup plus elles retiennent plus l'annonce, les gens passent plus de temps dessus, ça permet de vendre plus vite, ça permet de vendre plus cher, ça a un impact énorme. Donc si vous faites des photos pro, dites-lui les avantages que ça représente. Si vous-même, vous avez un photographe professionnel qui vient, ou si vous-même, vous avez un matériel pour ça, il faut lui en parler, il faut lui montrer tout l'impact que ça va avoir en bénéfice pour la vente de son bien, et évidemment, le bénéfice, ça va être pour lui. Ça va être qu'on va réussir à vendre plus cher grâce à ça. Vous faites des visites virtuelles, expliquez-lui à quoi ça sert les visites virtuelles. Expliquez-lui que les annonces qui ont une visite virtuelle sont beaucoup plus vues. Expliquez-lui que quand vous avez une visite avec un acquéreur à qui vous avez déjà envoyé la visite virtuelle au préalable, et ben en fait, quand il va venir visiter, ça va être limite une seconde visite. Donc ça va permettre de vendre plus vite. Ça va permettre de le rassurer pour les clients qui ont besoin d'être rassurés. On pourra faire la visite virtuelle plusieurs fois. Pour les clients qui ont besoin de l'avis de leurs parents, même si leurs parents ils sont à 300 km, ils vont leur envoyer la visite virtuelle. Ils ne peuvent pas faire ça. D'accord ? On est un pro face à amateur. Donc en fait, forcément, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça, si vous le faites, mettez-le en avant. Si vous diffusez sur plein de sites internet, si c'est un de vos arguments, expliquez-lui à quoi ça sert. Expliquez-lui que sur certains sites, on va cibler une clientèle comme ça, on peut cibler une clientèle internationale sur des sites internationaux, etc., etc. Trouvez les arguments par rapport à vos outils. Si vous êtes des vrais pros, vous avez forcément des outils que lui n'a pas, c'est obligé. Si vous avez une vitrine, si vous avez une agence avec une vitrine, expliquez-lui que son appartement ou sa maison, elle va toucher une clientèle peut-être âgée ou peut-être des gens qui sont déjà locaux et que votre agence avec sa vitrine, bah, vous avez beaucoup de monde qui passe, vous avez le marché qui est juste en face, etc. etc. Expliquez-lui l'avantage d'avoir la vitrine. Il ne peut pas avoir une vitrine, il ne va pas ouvrir un magasin, une vitrine juste pour la vente de sa maison. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, expliquez-lui que vous allez mettre sa maison sur Facebook ou sur Insta ou sur YouTube, ce que vous voulez. Si vous faites des vidéos, expliquez-lui l'impact que ça va avoir tout ça. Ok, sur Facebook, il peut peut-être le faire lui aussi, mais il a combien d'amis? 150, 200? Vous avez combien d'amis sur votre page? 1000, 2000, 3000? Expliquez-lui tout ça. Trouvez vos arguments par rapport à chacun d'entre vous. À ce moment-là, sur la commercialisation, qu'est-ce que je fais que lui ne peut pas faire? C'est pas qu'est-ce que je fais qui peut faire, etc. C'est des choses que lui ne peut pas faire. Et j'insiste à fond là-dessus. Le particulier sait que vous avez des outils qu'il n'a pas. Vous le savez. Maintenant, il faut lui expliquer à quoi ça sert. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Il se dit, bon, d'accord, j'ai pas la visite virtuelle, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais 13 275 euros. Il faut lui expliquer que ces outils-là vont permettre de vendre plus vite, plus cher. Donc, faites la liste des outils que vous utilisez. Faites la liste des outils qui ont vraiment de l'impact dans votre métier et axez là-dessus. Axez là-dessus pour que lui ne puisse pas comparer avec ce qu'il fait là. Sur vos outils, mais aussi sur vos stratégies. Expliquez-lui l'avantage des ventes privées. Expliquez-lui qu'aujourd'hui, vous avez un portefeuille client tellement important parce que vous travaillez toujours le même secteur que vous pouvez vendre sa maison sans même la diffuser. Ok, c'est cool. Mais lui va se dire, bah, je m'en fiche de la diffuser si ça me permet d'économiser les frais d'agence. Sauf que l'avantage de ne pas la diffuser, c'est qu'on n'a pas de négociation, c'est qu'on peut essayer un prix un peu plus élevé, c'est que ça valorise le bien, ça le rend rare. Ça crée une émulsion chez les acquéreurs. Donc, expliquez-lui ça. Plutôt que de dire « j'ai plein d'acquéreurs en portefeuille », dites-lui « j'ai plein d'acquéreurs en portefeuille, donc je peux tenter une vente privée ». Donc je peux tenter une journée de porte ouverte. En discutant avec lui, en ayant fait une grosse découverte, vous pouvez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire 10 000 visites, qui va être un peu gêné par rapport à ça. Expliquez-lui que entre votre portefeuille client, vos outils de commercialisation, vos méthodes, votre expérience, vous allez pouvoir sélectionner et faire des visites beaucoup plus qualité et une journée porte ouverte. Et ça se trouve, vous allez vendre dans la journée, éviter la négociation, etc. etc. Voilà, il faut vraiment insister sur votre savoir-faire. Votre expérience, vos outils, vos collègues, trouvez vos arguments. Si vous êtes dans une agence où vous êtes 10, bah c'est cool d'être 10 sur le même secteur. Ça veut dire qu'il y a plein de biens, ça veut dire qu'il y a plein d'acquéreurs qui cherchent le même secteur. Si vous êtes tout seul, mais vous faites partie d'un réseau de mandataires, expliquez-lui les outils que vous pouvez avoir sur Internet, etc. Vous avez forcément des arguments qu'il n'a pas, et donc du coup, il faut trouver cela et insister là-dessus pour que lui se dise « Ah ouais, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est bien plus compliqué et je n'ai pas le choix que de passer par un pro. » Donc là, on vient de voir les avantages au niveau du prix, de la commercialisation. On est au tout début de la vente. On vient de voir les avantages de passer par un pro. Maintenant, il faut lui expliquer à lui ses risques de le faire seul. Et ces risques, vous les connaissez. Mais il faut lui expliquer tranquillement, sans forcément essayer de lui faire peur, mais il faut lui expliquer que s'il ne fait pas ça, que s'il ne passe pas par un pro avec tous ses outils, toute cette expérience, toute cette façon de travailler, il y a des risques. C'est quoi les risques? C'est de ne pas vendre, forcément. C'est que le bien reste longtemps. Souvent, vos vendeurs, ils ont un projet global. Ils ont souvent un projet. Donc, c'est souvent des vendeurs et des acquéreurs. Souvent, ils veulent vendre pour acheter. On sait que la vente d'un bien, 90%, c'est suite à un événement dans la vie. Ça peut être un événement positif, naissance, mutation, mais ça peut être aussi un événement négatif, séparation, décès, etc. Mais dans tous les cas, que ce soit un événement positif ou négatif, quand ils vendent quelque chose, il faut qu'ils se relogent. Que ce soit tout seul, que ce soit avec deux enfants en plus, que ce soit dans une autre région. Mais du coup, ils ont aussi un projet d'acquéreur. C'est pour ça que les acquéreurs et les vendeurs sont souvent la même personne. Et donc du coup, quand vous lui expliquez ce que vous allez faire, il faut qu'il se mette dans la peau d'un acquéreur. Et donc c'est très facile à faire. Et demandez-lui, vous êtes en train de rechercher une maison, vous voulez vendre votre appartement, vous êtes en train de rechercher une maison, qu'est-ce que vous pensez d'un bien qui est sur le bon coin depuis des semaines et des mois? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le client? Et vous allez voir que la majorité vont vous dire, bah, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Donc en fait, c'est le risque qu'il a. Que s'il n'utilise pas tous les outils que vous avez, s'il n'utilise pas une agence immobilière, ben, il risque d'avoir un bien qui va rester, qui va traîner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est dévalorisé. Du coup, on est obligé de baisser le prix pour essayer d'avoir plus de visites. Mais du coup, quand il y a une négociation derrière, ben, on ne va pas forcément être très bon parce qu'on sait qu'on a un produit qui n'est pas super, super facile à vendre, etc. Donc ça, c'est vraiment les risques. Et du coup, pour schématiser, son risque, c'est d'avoir du mal à le vendre. Et le problème d'avoir du mal à le vendre, ce n'est pas juste qu'on perde du temps, c'est qu'en fait, à la fin, on perd de l'argent. Parce que si on ne vend pas, il faut baisser. C'est comme ça dans l'immobilier. Si on ne vend pas, c'est qu'il y a un souci et du coup, il faut baisser. Donc le risque de ne pas utiliser tout ça, c'est de mettre longtemps à vendre et la finalité, c'est qu'on va vendre moins cher. Donc là, vous voyez, il a 13 275 euros. Maintenant, il commence à comprendre les avantages de ça, ce que ça veut dire. Et ensuite, il voit le risque. Parce qu'on est sur un bien à 265 000 en moyenne. S'il n'arrive pas à le vendre 265 000, bah peut-être qu'il va le mettre à 260, 255, 250. Et vous voyez que déjà, les 13 275 euros, ils ont disparu là. Donc, on vient de voir la première étape de la mise en vente d'un bien, c'est-à-dire le prix et la commercialisation. Donc, on vient de voir tous les arguments que vous pouviez avancer. Maintenant, on va parler de la deuxième étape qui est les visites. Dans la tête du particulier, les visites, pour lui, ça ne semble pas quelque chose d'impossible à faire. Il pense qu'il faut qu'il se rende disponible, qu'il fasse visiter sa maison. Sa maison, il la connaît par cœur. Soit il y habite depuis longtemps, soit il l'a construit, soit c'est même lui qui a fait les travaux dedans. Donc en fait, il pense vraiment être la meilleure personne pour expliquer sa maison. Il connaît tous les détails, il connaît les marques des radiateurs, etc. Donc à ce niveau-là, il se sent vraiment capable de le faire. Et donc évidemment, nous, notre rôle, ça va être de ne pas aller là-dessus, parce que là-dessus, il pense qu'il est meilleur que nous, mais sur quelque chose que lui ne sait pas faire. La deuxième chose, c'est que pour les visites, on peut aussi parler de disponibilité, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne vous conseille pas non plus d'aller sur ce terrain-là, parce que pour 13 275 euros, il peut poser une semaine, 15 jours de congé pour être disponible. Donc, ça va être un peu difficile d'aller sur ce terrain-là. Donc, toujours pareil, la même logique, les arguments de l'agence, les avantages de passer par une agence pour les visites, et les risques s'il le fait tout seul. Premier avantage, c'est notre réactivité
à répondre aux appels des acquéreurs. Et donc ça, il faut lui expliquer l'impact que ça a. Il faut lui dire qu'aujourd'hui, quand on diffuse un bien, quand on a un acquéreur qui nous appelle, si on n'est pas réactif, si on ne lui répond pas tout de suite, si on ne gère pas tout de suite ce contact, non seulement on risque de le perdre, mais ensuite, même si on le rappelle plus tard ou quoi, on risque de perdre en qualité de relation avec cet acquéreur-là. Et ça, forcément, vous êtes meilleur que lui parce que vous avez une assistante, parce que vous avez des collègues, parce que vous avez X sites internet, vous avez, en fonction de vos outils, un service de prise en rendez-vous direct, etc., etc. Donc là-dessus, il faut vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, quand un acquéreur vous appelle, il faut se mettre à la place de l'acquéreur et votre vendeur y arrivera parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il est souvent acquéreur en même temps que vendeur. Quand il est un acquéreur, quand il est en train de chercher un bien, à ce moment-là, il est open pour parler de lui, parler de son projet. Il est sur Internet, il est sur un site, il voit un bien, il regarde les photos, le prix, il lit le texte, ça lui convient, bim, il appelle l'agence. Si à ce moment-là, on décroche, il est très facile de faire une découverte, de discuter avec lui, de planifier une visite, etc. Si on ne décroche pas, plusieurs possibilités. Un, il ne laisse pas de message. Du coup, compliqué. Deux, il laisse un message. Mais vous, quand vous allez le rappeler, il n'est peut-être pas dispo. Ou quand vous allez le rappeler, ça se passe tellement plus tard qu'il ne sait même plus de quoi vous lui parlez. Il est peut-être plus tranquillement chez lui, peut-être en voiture, il est peut-être avec ses enfants le soir en train de donner le bain. Donc à ce moment-là, il n'est vraiment pas focus sur son projet, il est en train de faire autre chose. Donc c'est très difficile de planifier une visite, de faire une découverte, etc. Donc la réactivité va vraiment apporter tout ça. Et forcément, vous, en tant que professionnel, vu que c'est votre métier, que vous faites ça 100% de votre temps, vous êtes forcément meilleur que lui. Deuxième avantage de passer par une agence, c'est la découverte client. Vous, en tant que professionnel, vous savez ce que c'est. Le particulier, il n'en a aucune idée. Et du coup, si vous lui dites juste, bah, nous, on fait une découverte client, ok, mais il ne va pas prendre l'ampleur, enfin, comprendre l'ampleur que ça représente. Donc ça, il faut lui expliquer. À quoi ça sert une découverte client? Ça sert à plein de choses, mais surtout, ça sert à comprendre le projet du client. Et on sait que quand on comprend son projet, on peut trouver les bons arguments. Et ça, pour tous les produits. Moi, si demain je veux vendre mon téléphone, si je le fais sans découverte, comme le particulier va le faire, c'est-à-dire que quand il va vendre son bien, il va le faire sans découverte, de quoi il va parler? Il va parler des choses dans sa maison, dans son appartement, qui ont de l'importance pour lui. Moi, si demain je veux vendre mon téléphone et que je ne fais pas de découverte et que je vous vende mon téléphone, dedans, je vais vous parler des choses que je trouve cool dans mon téléphone. C'est quoi que je trouve cool? C'est que j'ai des ados et que du coup, je peux mesurer leur temps d'écran parce que je suis branché à leur iPad. Ce que j'aime bien aussi, c'est les applis qui me permettent d'être productif. C'est le fait que j'ai mes mails et mon agenda qui sont liés dedans. Donc si demain je ne fais pas de découverte et que j'essaye de vendre ça avec ces arguments-là à quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes envies, c'est quelqu'un, il veut un téléphone parce qu'il adore faire de la photo ou il adore les jeux, ou ben en fait, mes arguments, ils n'auront aucun poids déjà, parce qu'ils s'en foutent de mesurer le temps d'écran de ses ados, ils s'en foutent de la productivité. Lui, ce qu'il veut faire, c'est des photos, des films, des trucs cool, ou des jeux, etc. Du coup, en fait, non seulement mes arguments n'auront pas de poids, mais en plus de ça, il risque de faire l'effet inverse, c'est qu'il risque de se dire, bah en fait, ce téléphone, il n'est pas fait pour moi, parce que je n'ai pas mis ça. Et c'est pareil pour une maison. Votre client particulier, il faut lui dire, et en plus, l'avantage, c'est que quand vous êtes arrivé chez lui et qu'il vous a fait faire le tour de sa maison, il vous l'a présenté de la même manière qu'il la présentera à des acquéreurs quand il fera les visites. Un client particulier, il expliquera toujours de la même manière. Vous savez, vous faites le tour de sa maison. Et en fait, il va vous expliquer le sous-sol, etc. Parce que lui, il est bricoleur. Moi, je suis pas bricoleur. Si je passe 30 minutes dans un sous-sol, en fait, tout ce que je vais me dire, c'est il fait froid et qu'est-ce qu'on fait là? Si lui, il est bricoleur, il va passer 30 minutes à m'expliquer qu'on peut mettre une moto, deux quads, qu'il a tous ses outils, etc. Et donc, du coup, on n'est vraiment pas dans le bon argument pour la bonne personne. Par contre, si on fait une découverte et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas un bricoleur, mais il a quatre enfants. Eh ben, on va insister sur la taille des chambres, on va insister sur la taille du jardin, on va insister sur la proximité des bus, etc., etc. Mais pour ça, il faut faire une découverte. Donc, il faut lui expliquer que la découverte, non seulement c'est indispensable, mais en plus, ça va vous permettre de faire des visites qualifiées et que ces visites qualifiées vont permettre d'avoir des arguments qui vont limiter la négociation et même faire réussir à vendre. Il faut que vous soyez persuadé que la façon dont vous présentez le bien, la façon dont vous connaissez l'acquéreur, ça va vous permettre de vendre des biens qu'il n'aurait pas achetés en direct tout seul. Moi, quand je suis face à un particulier pour lui faire comprendre l'importance de la découverte, et ça, la découverte client, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas se permettre de poser autant de questions que nous parce que déjà, il n'a pas été formé à la découverte. Et ensuite, en vente directe de particulier à particulier, les gens acceptent moins de questions que quand ils ont un pro face à eux. Et du coup, pour expliquer ça, moi, je raconte une histoire qui m'est arrivée. Et du coup, les clients comprennent. J'avais une famille qui avait trois enfants, trois garçons, assez rapprochés et assez turbulents. Et cette famille, elle cherchait une maison sur un secteur donné. Et je leur avais déjà fait 4-5 visites. Et du coup, on ne trouvait pas pour l'instant. Ils avaient des critères bien particuliers et j'avais une très très bonne idée de ce qu'ils recherchaient. Un jour, j'arrive au bureau un matin à 9 h, j'ouvre mon ordinateur et je vois une maison sur le Bon Coin, vendue en direct avec un particulier, sur le secteur que mes clients voulaient, au prix que mes clients voulaient, le nombre de chambres qu'ils voulaient, le terrain qu'ils voulaient. Je regarde l'annonce, j'ai le cœur qui commence à battre, je vois les photos et je me dis, oh, c'est exactement ce qu'ils veulent. Je me dis, c'est exactement ça, c'est la maison qui est faite pour eux. Sur ce, j'appelle directement le propriétaire et je lui dis, écoutez, voilà, je suis une agence immobilière, je sais que vous voulez vendre tout seul, mais moi j'ai des clients acquéreurs, je suis persuadé qu'ils peuvent être intéressés par votre bien, je fais un mandat de recherche, est-ce que je peux faire une visite, etc. Elle me dit, oui, pas de souci, pas de problème, vous pouvez faire. Sur ce, j'appelle ma cliente. Et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai vu une maison, je pense qu'elle convient, etc. Et en discutant avec elle, ça faisait plusieurs semaines qu'elle cherchait, elle était au taquet, et je me rends compte qu'elle avait déjà pris rendez-vous avec le particulier. Et donc, du coup, elle l'a visité 2 heures plus tard, à 11 h, en fin de matinée, elle avait prévu sa visite. Donc là, je suis dégoûté, je me dis, bon, bah voilà, c'est fait, elle va acheter. Midi, je la rappelle, et je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Et elle me dit, bah écoutez, ouais, vous aviez raison, la maison, elle correspond, mais je vais pas la prendre. Et là, je comprends pas. Pourquoi elle ne l'achète pas alors que tout correspond? Et en fait, elle commence à me raconter comment ça s'est passé. Le client qui, donc elle, c'était un couple, 35 ans, trois enfants, et la vendeuse, c'était une retraitée. Et donc, du coup, la vendeuse, elle lui a expliqué sa maison comme elle la voyait elle. Elle n'a pas fait de découverte. Ma cliente a été visitée toute seule, donc sans ses enfants. Et du coup, donc, on lui a fait toute la visite en lui expliquant la maison. Jusque-là, tout allait bien. Et ensuite, ils sont sortis dans le jardin. Et dans le jardin, la vendeuse a eu une phrase malheureuse, c'est qu'elle a dit, ah bah dans le lotissement, c'est hyper calme, il n'y a que des retraités, il n'y a pas d'enfants, et franchement, ça c'est vraiment vraiment agréable. Et du coup, cette phrase-là, qui est pourtant un argument, donc du côté du vendeur particulier, le fait que ça soit calme, c'est un argument. Et bien cette phrase-là a fait l'effet inverse chez ma cliente. Pourquoi? Parce que ma cliente, elle a trois enfants, trois garçons turbulents. Et forcément, elle sait qu'ils sont turbulents. Et elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais mes enfants, ils vont retourner le quartier. Les voisins, ils vont pas supporter mes enfants. Je vais avoir des conflits avec les voisins, etc. Et du coup, elle s'est dit, bah, c'est pas une maison qui est faite pour moi. Et en fait, elle l'a pas acheté à cause de ça. Donc, quand on se rend compte à quoi ça tient, eh ben, elle a pas acheté cette maison-là juste à cause de cette phrase malheureuse qui, pourtant, à la base, est un argument. Chose que moi je n'aurais pas faite parce que je connaissais ma cliente, parce que je connaissais ses enfants, parce que je les avais vus en visite, parce que j'avais déjà fait 3-4 visites avec elle. Et donc, du coup, quand on serait arrivé dans le jardin, moi j'aurais plutôt axé sur le fait qu'elle puisse faire une piscine, qu'elle puisse mettre une cabane, qu'elle puisse mettre une balançoire, que ses enfants peuvent même jouer au foot. J'aurais axé là-dessus plutôt que de parler des voisins qui sont retraités et qui sont hyper calmes. Donc là, vous avez un exemple précis de différence pro grâce à une découverte. Particulier qui le fait au feeling par rapport à sa propre expérience. Donc là, on vient de voir deux avantages de passer par une agence, la réactivité aux appels, le fait qu'on fasse une découverte complète, et là-dessus, vous pouvez même insister en disant que vous passez beaucoup de temps, que du coup, ça enclenche une visite sur trois appels, etc. Le troisième avantage que je vous conseille, c'est aussi de lui dire que vous êtes neutre et vous avez un rôle d'intermédiaire. Il faut expliquer que s'il fait les visites tout seul, il a beau dire tout ce qu'il veut. Il est face à l'acquéreur. L'acquéreur, par rapport à ce que lui dit le vendeur, il va avoir un filtre. Attention, c'est le vendeur. Tout ce qui compte, c'est vendre sa maison. Donc, ce qu'il dit, c'est peut-être pas forcément la vérité. Et ce filtre-là, il est forcément plus important quand c'est le vendeur en direct que quand c'est un agent immobilier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pendant la visite, les acquéreurs, dans la majorité des cas, n'oseront pas émettre des objections, n'oseront pas relever des choses qui ne vont pas. Parce qu'ils sont face au vendeur en direct et que ils ont par pudeur, ils veulent pas le gêner ou ils veulent pas dire quelque chose, etc. Quand on n'a pas d'objection, le problème, c'est quand on n'a pas d'objection. Une vente, ça commence par un non, ça commence par une objection. Donc quand on n'a pas d'objection, on peut pas argumenter. Et quand on n'a pas d'argument, on n'arrive pas à vendre. Je dis n'importe quoi. Si ils n'aiment pas la cuisine, si ils voudraient ouvrir, etc. Peut-être qu'ils vont pas oser dire au vendeur, oh, j'aime pas du tout votre cuisine, parce que peut-être que le vendeur sa cuisine il l'a refait il y a 2 ans. Peut-être qu'ils ne vont pas oser dire au vendeur, c'est très sombre. Peut-être qu'ils vont. Voilà. Alors que quand ils sont avec un agent immobilier, ils vont oser le dire. Je trouve que c'est très sombre. Oui, mais vous pouvez. C'est très sombre parce que ce n'est pas en noir ou c'est pas avec des peintures foncées. Vous pouvez peindre en blanc, etc. J'aime pas la cuisine, vous pouvez facilement la refaire. Je trouve que c'est petit, vous pouvez casser une cloison. Donc en fait, toutes ces objections que l'acquéreur peut dire naturellement, spontanément pendant la visite, il ne va pas le faire avec le vendeur parce qu'il ne va pas oser. Et alors que nous, on va être là, il va oser le faire, et nous, du coup, on va pouvoir trouver les contre-arguments qui vont permettre de vendre. Donc, on vient de voir les avantages pour les visites de passer par une agence. Maintenant, le risque pour un particulier. Évidemment, le risque premier, c'est que ça soit chronophage. Ok, d'accord, il veut essayer de tout gérer tout seul, mais surtout en ce moment, sur un bien, on peut avoir 20-30 appels dans la journée. Donc ça peut être très très chronophage, sachant qu'il va faire aucune découverte. Il risque de perdre beaucoup beaucoup de temps en visite. Derrière les visites, il n'a pas de retour. Il ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, il donne rendez-vous aux acquéreurs devant la maison, il fait la visite, à la fin il leur dit au revoir. Il ne les raccompagne pas chez eux ou ils ne font pas un point à l'agence. Il ne peut pas se permettre très difficilement de les rappeler 2 jours plus tard en disant alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et même s'il le fait, les gens ne vont pas forcément lui dire la vérité. Donc il a pas, alors que nous, on va l'avoir cette vérité. Donc il n'a pas à avoir le retour. Du coup, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il peut se démotiver. C'est qu'il peut même en avoir marre de faire des visites. Et du coup, quand on en a marre de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est pas bon. Et ce qui va se passer, c'est que soit il ne va pas vendre, soit il va accepter une offre parce qu'il en a marre. Et donc du coup, tout ça, il risque de perdre énormément d'argent en essayant de le faire tout seul. Vous pouvez aussi lui parler de votre propre expérience en lui disant que quand vous faites des visites sur un bien, au début, vous avez une idée de la façon de faire. Et puis du coup, en fonction des visites et des retours des clients, vous vous adaptez. Vous vous rendez compte que peut-être que pour vous, l'argument, c'était la pièce à vivre, mais qu'en fait, du coup, il y a d'autres acquéreurs qui ont trouvé que l'argument, c'était la taille des chambres. Et que du coup, les visites d'après, vous évoluez. Pourquoi vous évoluez? Pourquoi vous devenez meilleur? Parce que vous avez le retour. Quand on a le retour, on progresse. Le vendeur particulier ne l'a pas. Donc, il ne progresse pas dans ses visites. Donc, il reste toujours pareil. Il ne sait pas pourquoi ça ne se vend pas. Et du coup, tout ce qu'il a pensé, c'est que c'est à cause du prix. Mais non, c'est peut-être à cause du prix, mais c'est peut-être aussi à cause de sa façon de faire. On va voir la troisième partie. On a vu le prix, la commercialisation. On a vu ensuite comment traiter les acquéreurs et réaliser les visites. Et maintenant, on va voir la partie qui est très, très importante aussi. C'est tout ce qui est négociation et closing avant d'aller signer le compromis. Le particulier sait qu'il risque d'avoir une négociation, et puis il est malin, il a anticipé dans le prix. Il se dit, j'en veux 300 000, mais comme il va avoir une négociation, je vais mettre à 310. Déjà, souvent, quand les clients vous disent il y a forcément une négociation, il faut leur dire, ça dépend. Si c'est très bien fait, si vous passez par un pro, si on a bien ciblé, si on a bien mis en valeur le bien, ça se trouve, il n'y a pas de négociation. Si on connaît très bien son acquéreur, ça se trouve, il n'y a pas de négociation. Donc du coup, lui, il pense qu'il risque d'avoir une négociation et il pense qu'il est assez malin, il a prévu 10 000 euros, 15 000 euros, il a monté son prix, il s'est dit, voilà, c'est ma marge de négociation. Donc lui, pour lui, ça s'arrête là, la négociation. Maintenant, on va lui expliquer les avantages de l'agence et les risques pour lui. Premier avantage de l'agence, c'est le rôle essentiel de l'intermédiaire. Notre métier, c'est d'être intermédiaire. L'intermédiaire, dans toutes les transactions du monde, il a un rôle essentiel. Et ça commence à la cour de récré. Quand on veut aller dire à la petite copine qu'on est amoureux, on envoie un copain. L'intermédiaire, il a un rôle à ce niveau-là. Il a un rôle de négociation. Il a un rôle parce qu'il va connaître les besoins et les envies de l'un, les besoins et les envies de l'autre. Et du coup, avec ces informations, il va faire en sorte que ça se passe bien et il va permettre que la relation, elle se fasse, que la vente finale se fasse. Donc ce rôle-là, il faut que vous lui en parlez comme ça à votre client en disant elle est indispensable. Et pour ça, si vous avez vous-même du mal à y penser, réfléchissez aux ventes que vous avez faites avec des vendeurs et des acquéreurs qui ne s'entendaient pas, qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde, qui n'avaient pas forcément le même caractère. Et dites-vous que si ces deux-là, vous les avez mis dans une pièce, en huis clos, en enlevant vos honoraires, ça n'aurait rien changé, ils n'auraient pas acheté ni vendu. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, ça aurait été du conflit. Et là, vos 13 000 euros d'ono, c'est aucun impact. Ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème d'être sur la même longueur d'onde, c'est un problème de régler le tir pour que tout le monde… Une bonne transaction, c'est quand le vendeur il est satisfait et que l'acquéreur il est satisfait. Et ça, souvent, c'est grâce à un intermédiaire. Deuxième avantage dans la négociation de passer par une agence, c'est le fait qu'on connaît l'acquéreur. Et du coup, on sait ce qui lui est arrivé avant. On connaît son historique. Vous savez très bien qu'un acquéreur qui est en début de recherche, s'il veut négocier le prix de l'appartement ou de la maison, ça va être plus compliqué pour vous de défendre le prix que si c'est un acquéreur qui a déjà visité 20 biens, c'est le seul qui lui plaise, ou encore mieux, un acquéreur qui a déjà vu 2 biens lui filer sous le nez parce qu'en fait, il n'a pas fait une offre au prix. Là, vous avez beaucoup plus de poids. Mais parce que vous connaissez l'historique, le vendeur particulier en direct ne le connaît pas. Donc, il ne peut pas argumenter là-dessus.
Vous avez un client à vous qui a déjà visité deux biens, qui a déjà fait deux offres qui lui sont passées sous le nez. Quand il va vouloir négocier, vous allez regarder avec un petit, avec la tête un peu sur le côté en lui disant « Monsieur le client, vous êtes sûr que vous voulez tenter le diable encore une fois ?» C'est des choses que vous pouvez vous permettre parce que vous connaissez l'historique. Moi, ce que j'utilise, et j'explique aussi comme ça aux vendeurs, c'est que quand j'ai un acquéreur qui veut faire qui veut négocier, je lui dis « Écoutez, pas de souci, mais il y a trois possibilités. Un, c'est accepter, champagne. Deux, le vendeur fait une contre-offre, je reviens vers vous. Mais trois, il se peut qu'en même temps, on ait notre offre qui soit supérieure à la vôtre et que non seulement je vais vous dire « c'est pas passé », mais en plus, le bien n'est plus à la vente. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là? En fonction aussi de votre client, vous pouvez aussi vous permettre de lui dire, quand il veut négocier 10 000 euros, comme vous le connaissez, vous pouvez aussi lui permettre « ok, d'accord, vous voulez prendre ce risque-là pour 10 000 euros, 10 000 euros, c'est 40 euros par mois sur un prêt de 25 ans. Est-ce que pour 40 euros par mois, vous êtes prêt à louper cette maison ?» C'est des choses que vous pouvez dire, un impact que vous pouvez avoir. Le vendeur, de son côté, particulier à particulier, impossible de faire tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le particulier vient, il visite, ça lui plaît, il rentre chez lui, il réfléchit à faire une offre. Généralement, il n'appelle pas le vendeur particulier, il lui fait un mail ou un texto. Il va tenter, c'est-à-dire qu'il va se dire, bon, ça vaut 350, je vais faire une offre, allez, à 335, 340, parce que, allez, 330, parce que ça se trouve, il va me demander une contre-offre, etc. Donc en fait, il balance une offre comme ça. Le vendeur particulier reçoit l'offre comme ça, et lui, il ne sait pas s'il peut le faire remonter. Il n'a pas d'argument, il ne sait pas qu'il a déjà visité avant, etc. Donc du coup, il risque d'accepter une offre pas assez chère. Ensuite, des fois, il y a des clients qui font une offre en dessous du prix parce qu'ils pensent que la maison est trop chère. Nous, en tant que professionnels, on peut les rassurer en leur montrant d'autres choses qu'on a vendues. On peut faire le même boulot qu'on fait avec un vendeur. Quand on veut lui montrer que c'est ce prix-là, en lui montrant des choses qui sont vendues, on peut faire la même chose avec un acquéreur, en lui disant, mais si, on est au prix. Il y a ça qui s'est vendu, on a vendu ça il y a deux semaines, regardez, en ce moment, on a cette maison à la vente. Vous vous rappelez celle que vous avez visitée? Et bien du coup, elle est partie au prix, vous l'aviez trouvée trop chère à l'époque. Et on peut le rassurer dans ce sens-là. Le vendeur particulier ne peut pas faire cette action-là. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser l'option courtier, surtout en ce moment où les banques ont un peu resserré les conditions d'octroi de crédit. Vous pouvez aller un peu sur ce terrain-là en fonction de votre vendeur. Si c'est un vendeur qui est un peu plus dans la sécurité, un peu plus craintif, vous pouvez aller là-dessus en disant « on travaille avec un courtier partenaire, on vérifie les financements. L'année dernière, j'ai eu 2% de refus de prêt, c'est très très rare chez nous parce qu'on vérifie plein de choses en amont, etc. » Chose que lui ne peut pas faire, très difficilement. Donc ça, vous pouvez aussi aller sur ce terrain-là pour le rajouter. Et enfin, dernier avantage de passer par une agence, c'est le closing. La vente immobilière, elle est longue. C'est-à-dire que le client est venu visiter, il fait une offre, il y a une négociation et à un moment donné, on tombe d'accord. C'est cool, mais il faut signer un compromis ou une promesse de vente. Et à l'issue de cette signature, l'acquéreur a encore 10 jours pour réfléchir. Nous, en tant que professionnels, il faut qu'on soit plus réactif là-dessus. Donc là, deux possibilités. Soit vous êtes une agence qui fait ses propres compromis et ça, il faut le mettre en argument. Écoutez, on a un service de compromis, on est homologué pour les faire, on est formé pour les faire. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que si demain, on tombe d'accord avec un client, il nous fait une offre écrite, on signe. Et derrière, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, on peut concrétiser un compromis. Donc le délai de réflexion pour l'acquéreur, il a été que de 4 jours ou 5 jours avant d'avoir ces 10 jours de tractation. Si vous ne signez pas les compromis, il faut que vous travailliez avec des notaires réguliers qui vont vous accepter des dates de rendez-vous plus rapides qu'ils accepteraient un particulier. Le particulier, s'il tombe d'accord avec un acquéreur, il va appeler son notaire. Son acquéreur risque d'appeler son notaire. Et là, on est sur des délais moyens de 3 semaines avant de signer un compromis. Plus 10 jours de réflexion. Donc vous vous rendez compte, en fait, monsieur le client, vous vous rendez compte que votre acquéreur, même quand vous êtes tombé d'accord avec lui, il a encore un mois pour réfléchir. Et un mois, c'est long. Et surtout, qu'est-ce qui se passe pendant un mois? Aujourd'hui, 95% des acquéreurs font leurs recherches aussi sur Internet. Et ils vont sur des sites spécialisés, généralement au moins 2. Et sur ces sites-là, plus de la moitié d'entre eux se mettent des alertes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, ils reçoivent des mails des dernières nouveautés. Et bien, quand il va vous taper dans la main en vous disant « je vous achète votre maison », ce n'est pas pour ça qu'il va tout de suite, le soir même, déconnecter toutes ces alertes. Donc, pendant un mois de délai avant de signer un compromis, il va recevoir tous les jours les nouveautés. Et la preuve, c'est quoi? C'est que tous les jours, on a des clients qui nous appellent, qui ont déjà fait une offre, qui sont en attente de signature de compromis, mais qui veulent quand même visiter la maison qu'on vient de diffuser. On ne sait jamais, parce que bon, j'ai fait une offre, mais là, elle a l'air quand même pas mal. Donc, en fait, non seulement on est tombé d'accord, mais en plus de ça, on risque de perdre le client parce qu'on va le laisser dans la nature pendant un mois. Quand on est tombé d'accord, il faut signer le plus vite possible. Et nous, en tant qu'agence, on sait le faire bien mieux que vous. Du coup, les risques pour le vendeur, c'est quoi? Déjà, un, par rapport à toute la négociation, etc., c'est de ne pas vendre. Il peut louper une négociation parce qu'il peut être maladroit, il peut ne pas mettre les gens à l'aise, etc., il peut ne pas les rassurer. Donc déjà, il peut louper une négociation. Déjà, vous voyez, quand on en est arrivé là, entre la commercialisation où il ne cible pas la bonne personne, les visites où il ne fait pas les visites correctement avec l'histoire que je vous ai racontée, la négociation où là, par maladresse ou par méconnaissance, il peut la louper. Vous vous rendez compte déjà de tout le déchet qui peut avoir par rapport à ça. Deuxième chose, c'est que il peut louper une bonne offre. Peut-être qu'il en veut 350 et peut-être qu'il a une offre à 340, mais peut-être qu'il a tenté le diable en disant 345 et que du coup, bah, en face, ça a pété et que du coup, il n'aura jamais une offre aussi bien. Donc c'est possible qu'il perde l'opportunité de vendre à un prix qu'il n'aurait jamais réussi à vendre plus tard. Donc il perd de l'argent. Et la troisième chose, c'est que à l'inverse, il peut aussi accepter une offre trop basse. Vous avez votre client qui a déjà visité 2-3 maisons qui lui sont passées sous le nez. Mais il a une petite tendance à négocier. Et puis, il a bien senti pendant la visite que le vendeur, peut-être moyen de négocier. Il va tenter une offre 10 000, 15 000 en dessous. Et le vendeur, peut-être qu'il va l'accepter. Sauf que si vous étiez là, vous direz à votre vendeur, à votre acquéreur, pardon, vous lui direz, vous voulez qu'elle vous repasse sous le nez. Et peut-être que vous arrivez à le faire monter au prix. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez réussi à faire ça. Où vous avez un acquéreur qui avait une idée du prix, de l'offre qu'il voulait faire, et en discutant avec lui, vous avez réussi à le faire remonter. Réfléchissez aussi aux acquéreurs qui vous ont fait une offre qui n'est pas passée, mais surtout, il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté à leur place, et quand vous les avez rappelés, ils vous ont dit non, non, mais c'est bon, je monte au prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils étaient capables de monter au prix. Donc ça veut dire que le vendeur particulier, il peut accepter une offre trop basse, par méconnaissance, par amateurisme, du coup, perdre d'argent. Donc voilà, on vient de voir les trois principales étapes de vente que le particulier s'imagine, le prix de la commercialisation, les visites et la négociation avec la signature du compromis. Voilà, lui, il voit ces trois étapes. On vient de voir ces trois étapes et dans ces trois étapes, on a réussi à lui faire comprendre qu'on faisait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de vendre votre mandat. C'est difficile, autant difficile que les arguments sont faciles parce que tout à l'heure, quand vous avez rempli la fiche, vous avez mis tous ces arguments que je viens de vous expliquer. Donc les arguments sont faciles. Ce qui est difficile, c'est de les expliquer. Ce qui est difficile, c'est de trouver le moment avec le vendeur où il va vous écouter, où vous allez pouvoir déballer tous ces arguments-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est quelque chose sur lequel il faut que vous vous entraîniez. Il faut que vous ne lâchiez pas. Il faut qu'à chaque fois que vous avez des objections, chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous y allez. C'est le moment le plus important de votre parcours client. C'est la prise de mandat et faut garder en tête que c'est 30%. On a l'euro qui vient de se terminer et j'ai vu une stat dans l'euro, c'est que 30% des buts ont été marqués de la tête. Donc ça me fait penser aux particuliers. C'est comme si vous étiez un attaquant et que vous disiez, bah, moi c'est bon, je marque du droit, je marque du gauche, la tête c'est pas mon truc, tant pis. Tous les joueurs professionnels, tous les attaquants professionnels qui ont fait l'euro, même si la tête c'est pas leur truc, ils l'ont travaillé. Pourquoi? Parce que c'est 30% des buts. Donc si le particulier c'est pas votre truc, si vous avez tendance à lâcher parce que ça vous saoule, parce que c'est fatigant parce que pensez à ça. Pensez que c'est 30% de vos ventes. Entraînez-vous. Plus vous allez faire, plus ça va être facile. Et moi, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, j'adore quand un particulier me dit je vends tout seul. J'adore ça. Maintenant, on a vu tout ça. Je vais vous donner quelques trucs et astuces sur les objections les plus courantes. Il y en a certainement d'autres. Après, c'est à vous aussi de trouver ce qui marche. Et là, c'est pareil, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que quand on a une objection et que vous ne savez pas y répondre, que vous bégayez, que vous répondez à côté de la plaque, juste derrière, le but, c'est de la noter, demander à vos collègues ce qu'ils auraient répondu, réfléchir à froid sur ce que vous auriez répondu pour que la fois d'après, quand elle arrive, vous soyez préparé. Mais les objections les plus courantes, on peut avoir l'objection du client qui vous dit, après avoir écouté tout ça, ah, d'accord, je comprends ce que vous me dites, les avantages d'une agence, mais du coup, j'aimerais bien essayer tout seul. Et si j'y arrive pas, je vous appelle. Ça, c'est une objection qu'on a très souvent. C'est un petit peu une manière de botter en touche. C'est OK, d'accord, j'ai compris, mais j'essaye quand même. Et si j'y arrive pas, je t'appelle. Donc là, j'ai une démo à vous faire qui est un peu technique, avec laquelle il faut que vous soyez à l'aise. Mais si vous arrivez à la faire, elle marche très bien. Donc pour ça, on va se mettre en contexte avec un exemple concret. On imagine que vous avez rendu une estimation d'un bien à 300 000 euros. Vous l'avez dit, entre 290 et 310 000 euros peut-être. Et que le particulier veut essayer tout seul. Donc il en veut 300 000. Et il vous dit, OK, très bien, j'ai compris les avantages de l'agence, mais j'ai envie d'essayer tout seul. Si j'y arrive pas, je vous appelle. OK. Donc là, on a deux options. Option A, il essaye, et il n'y arrive pas, il vous appelle. Et là, on va aller, c'est l'option 2, où nous, on commence d'abord. Je vous explique la démonstration.
Vous lui dites, ok, très bien, donc vous en voulez 300 000 euros. Imaginons qu'au bout de quelques semaines, vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas réussi à la vendre. Là, comme vous me dites, vous me rappelez. Oui, je vous rappelle, monsieur l'agent immobilier. Ok, moi, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je vais récupérer votre bien qui a déjà été diffusé sur Internet et vous n'avez pas réussi à le vendre. Là-dessus, je ne travaille pas gratuitement, je vais rajouter mes honoraires, 15 000 euros. Donc, je vais rediffuser un bien que vous n'avez pas réussi à vendre 300 000 euros à 315 000 euros avec mes honoraires, ce qui ne va pas du tout être logique. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous dire, ok, moi, je vais essayer avec mes outils, je vais essayer avec mes méthodes de commercialisation, je vais essayer avec ma façon de travailler, avec mon portefeuille client, avec tous mes outils. Mais c'est compliqué d'être à 315 000 quand vous avez déjà mis sur le marché un produit à 300 000. Les gens vont le reconnaître, ils ne vont pas comprendre qu'un produit qu'on n'a pas réussi à vendre 300, ben maintenant, on réessaye à 315. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais le diffuser à 300. Et donc, du coup, pour vous, net vendeur, au lieu d'en avoir 300, vous en aurez 285. Donc, si vous essayez tout seul en premier temps et que vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. Moi, je vais y arriver, mais vous aurez 285 au lieu de 300. Ce que je vous propose, c'est l'option B. L'option B, c'est qu'on fait l'inverse. C'est que j'essaye d'abord, et si je n'y arrive pas, vous essayez tout seul. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que moi, je vais essayer d'abord à 315 000, avec tous mes outils, toute ma façon de travailler, etc. L'avantage à 315 000, c'est que net vendeur, vous avez pour vous 300 000. Si j'y arrive, parfait, vous avez 300 000. Si je n'y arrive pas, vous arrêtez mon mandat et vous essayez tout seul. Sauf que là, vous avez un bien qui a été diffusé pendant des semaines à 315 000. Vous enlevez les honoraires de l'agence, vous mettez à 300 000, votre net vendeur ne change pas et du coup, vous diffusez un bien sur Internet à 300 000, un bien qui n'était pas vendu 315. Donc, baisse de prix, nouveauté, afflux de clients et là, vous avez une chance de le vendre à 300 000. Et donc, du coup, la différence entre ce que vous pensez faire à la base et ça, c'est que moi, je vous assure 300 000 alors que ce que vous pensiez faire, ça, vous risquez d'en avoir que 285 000. Donc ça, c'est une méthode qui est un peu technique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'écrire devant le client pour qu'il visualise les chiffres. Quand vous avez cette objection ou quoi, vous prenez une feuille blanche et vous l'écrivez, vous entraînez avant. Il faut que vous-même, vous compreniez la logique. J'espère que c'est assez clair, mais il faut que vous entraîniez à le faire. Et peut-être sur un collègue, peut-être... Et vous allez voir que peut-être sur votre conjoint ou conjointe, pour voir si vous êtes à l'aise avec ça. Moi, je suis très à l'aise avec cette technique, elle marche bien, mais je pense qu'elle marche bien parce que je suis à l'aise avec. Il ne faut pas partir, il ne faut pas se perdre là-dedans, mais c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher pour cet argument-là. J'essaye d'abord et après, je vous appelle. Vous pouvez avoir aussi comme objection de temps en temps des clients qui sont... ce n'est pas forcément une mauvaise objection, c'est des vendeurs qui vont vous dire « Ok, très bien, je comprends tout ce que vous m'avez dit, tous les avantages de passer par une agence, mais si on rajoute vos honoraires à ce que j'en veux net vendeur, ça risque de faire trop cher pour les acquéreurs. » C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent à la place de l'acquéreur et qu'ils se disent « Le bien, il va vraiment être trop cher. » Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut lui rappeler que c'est vous le pro et il faut lui rappeler, comme je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas une science exacte et qu'un bien qui est très bien diffusé, qui est très bien commercialisé, qui est fait par un pro, par un très bon vendeur, il se vendra plus cher qu'un bien qui est mis comme ça sur le bon coin. Là, il faut se rappeler des images des voitures sur un parking ou sur une estrade. Donc ça, vous pouvez déjà lui dire ça. Mais ensuite, il faut lui faire comprendre que, et là, vous pouvez se servir de sa propre expérience, il faut lui faire comprendre que les acquéreurs, la majorité des acquéreurs, c'est un projet de vie. La majorité des acquéreurs, ils cherchent une maison, un appartement dans laquelle ils s'imaginent vivre, dans laquelle ils imaginent voir grandir leurs enfants ou proches des communautés parce qu'ils en ont besoin, etc. Ils ont tous des bonnes raisons. Donc en fait, c'est pas, ils ne se disent pas, tiens, je vais essayer de trouver un bien qui est sans honoraire parce que comme ça, j'économise moi aussi les frais d'agence. Non, la majorité des acquéreurs ne pensent pas ça, c'est un projet de vie. Vous avez peut-être une petite partie qui pense ça, mais la majorité pense, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver le bon bien, surtout en ce moment où il n'y a pas énormément de biens, ils cherchent de partout. Et d'ailleurs, quand ils vont sur le bon coin, ils regardent autant les maisons ou les appartements vendus par des particuliers que ceux vendus avec des agences. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver le bien. Et là, vous pouvez lui dire, moi, quand ils m'appellent, les acquéreurs, ils ne me demandent pas combien j'ai d'honoraires. Ils me demandent quand c'est qu'ils peuvent visiter le bien, en fait. Donc, cette réflexion, ça risque de faire trop cher. Non, ça, elle n'existe pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a une petite partie d'acquéreurs minimes qui, eux, vont peut-être chercher à passer en direct avec le particulier pour économiser les frais d'agence, tout ça. Donc, ça veut dire que cette clientèle-là, c'est une clientèle de gens qui ont peut-être un budget limité, c'est une clientèle de gens qui ont peut-être, qui sont peut-être opportunistes, qui sont peut-être négociateurs dans l'âme, qui veulent faire un coup de fusil, etc. Et bien là, vous pouvez retourner l'argument en lui disant, vous préférez demain faire visiter et vendre votre maison à qui? À des acquéreurs qui ont un projet de vie. Ce qui compte pour eux, c'est de se sentir bien et de réaliser leur projet, ou à des gens qui veulent faire un coup de fusil. Choisissez à qui vous voulez vous adresser et en fonction, diffusez-le tout seul sur le bon coin ou passez par une agence professionnelle. Troisième petit truc et astuce, quand vraiment c'est un peu difficile et quand vous sentez que vos arguments marchent mais vous n'êtes pas encore arrivé, etc., vous pouvez utiliser la technique de l'anti-vente. C'est très technique, mais ça se fait facilement, il faut être à l'aise avec ça. Mais quand ça marche bien et quand c'est bien fait, c'est redoutable. C'est quoi la technique de l'anti-vente? C'est qu'une fois qu'on a développé tous les arguments qu'on vient de voir, c'est de lui faire ressentir que vous êtes tellement convaincu que c'est une aberration qu'il vende tout seul, que vous êtes tellement convaincu que c'est un projet qui mérite un vrai professionnel avec de vrais outils pour s'en occuper, de lui dire, écoutez, monsieur le client, si moi, je vous ai pas convaincu, vous pensez encore qu'il faut passer tout seul, je vous invite à réfléchir, mais prenez une agence. Même si ce n'est pas moi, prenez une agence, il ne faut pas que vous vendiez tout seul. Et là, du coup, l'effet de faire ça, déjà, vous serez un des rares à le faire. Vos confrères ne vont pas forcément faire ça parce que c'est quand même particulier. Et du coup, là, vous passez du statut vendeur, commercial qui veut vendre son mandat au statut conseiller qui est prêt à s'effacer pour votre bien. Si vous vendez tout seul, vous allez droit dans le mur. Pour votre bien, il faut que vous passiez par une agence, même si ce n'est pas moi. Et en faisant ça, évidemment que si ça marche, cet argument-là, il va passer par une agence et évidemment que ce sera vous. Parce que en fait, vous serez passé du côté vendeur au côté conseiller et là, il va se dire, ah bah tous les arguments que vous avez sortis avant, il peut avoir un filtre en disant, ok, c'est du blabla pour avoir son mandat, c'est du blabla pour avoir son mandat, c'est du blabla pour avoir son mandat. Et d'un coup, ah merde, il est prêt à ne pas prendre le mandat. C'est peut-être que c'est vrai tout ce qu'il m'a dit avant. Et évidemment, ça peut faire mouche. Et évidemment, ça vous met en avant. Et là, il risque de passer par vous. Maintenant, on va faire une petite mise en situation avec un vendeur PAP représenté par Arnaud.
Bonjour.
Je t'écoute, Arnaud.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai une maison à vendre. Très bien. Et je suis persuadé que je peux la vendre moi-même.
OK. Pourquoi
Eh bien, parce que... La commission arrive à peu près à 20 000 euros. C'est un an de travail. Mm-hmm. Je pense qu'en un an, je suis capable de vendre moi-même ma maison.
Tout à fait. La bonne réflexion, ce n'est pas de se dire combien de temps vous allez mettre, mais c'est est-ce que vous êtes capable de le faire. C'est plutôt dans cet esprit qu'il faut se positionner. C'est que est-ce que vous êtes capable d'atteindre ce résultat? Est-ce que vous êtes capable de le vendre? Comment vous comptez vous
Moi, personnellement, oui, je sais que je suis capable de poster une annonce sur le bon coin. Mm-hmm. Prendre 4-5 photos de mon appartement. En D'accord. plus, j'ai mon beau-frère qui est photographe. Mm-hmm. Donc, il connaît la maison, il va me faire les photos. On va diffuser sur le bon coin. Pareil, j'ai un copain qui a vendu dans la ville. Il a mis sur le bon coin. En 3 jours, c'est parti, apparemment. Okay.
Du coup, vous avez réfléchi à la cible de votre maison, à qui vous allez vous adresser?
Des gens qui ont envie d'acheter.
Oui, mais est-ce que vous pensez que toutes les familles vont être intéressées par votre bien? Est-ce que vous pensez être capable de, suite aux annonces, à votre annonce que vous avez postée, aux appels que vous allez recevoir, est-ce que vous pensez être capable de faire une découverte client pour savoir vraiment ce qui va les intéresser dans votre maison? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre maison?
Moi, ce que je trouve ce qui nous a fait acheter la maison à l'époque, ce qui nous a fait acheter à mes parents en fait, et que moi j'ai toujours kiffé, c'est le jardin. On a un grand terrain de 400 mètres carrés. Il y a des cerisiers qui ont été plantés par mon grand-père. À l'époque de ma naissance, ça donne des cerises tous les ans. Ça et le grenier, parce qu'effectivement, maison familiale, j'y ai passé mon adolescence dans ce grenier. C'était la fameuse chambre de l'enfant seul.
Très bien. Donc là, on voit qu'il y a des critères qui vous plaisent dans votre maison à vous. Maintenant, une habitation, c'est un projet de vie et on va chercher une cible. Et toutes les cibles n'ont pas les mêmes motivations. Peut-être que le jardin va toucher une certaine partie de la population, mais pas toute. Le but de vendre pour vendre au mieux et au meilleur prix, dans les meilleures conditions, c'est de s'adresser à tout le monde. Donc c'est là-dessus que l'agent immobilier va avoir son rôle. C'est-à-dire que nous, on va détecter par notre expérience, par notre connaissance du marché, par les statistiques qu'on a sur les demandes, etc. On va détecter ce qui peut le plus plaire dans votre maison et mettre ça en valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que de mettre votre maison en vente et d'attendre les acquéreurs. Il faut d'abord trouver le type d'acquéreur pour communiquer de la meilleure des manières.
J'entends ce que vous me dites, mais en fait, je vais vous expliquer le vrai problème qui est derrière. C'est que 20 000 euros pour ouvrir la porte et faire la visite, je trouve ça un peu cher.
Tout à fait, sauf que notre métier, ce n'est pas ça. Et c'est normal, je comprends que vous pensiez ça si vous pensez que notre métier, c'est ça. Sauf que notre métier, ce n'est pas ouvrir la porte et même prendre 3 photos, parce que ça, vous pouvez le faire tout seul. Notre métier, ça va être de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Notre métier, ça va être de trouver la bonne cible. Notre métier, ça va être de mettre en valeur. votre bien par les photos, par une mise en situation, par notre expérience, on sait ce qui plaît. On sait les photos qui vont apporter le plus de clics. On sait sur quel site diffuser. Ensuite, on a une base client dans notre logiciel qui va nous permettre de faire des choses, par exemple, comme une vente privée. Est-ce que vous pensez que si demain je présente votre maison à un acheteur et que je ne l'ai pas encore diffusé sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, est-ce que vous pensez qu'il va négocier plus facilement que si elle est déjà en ligne depuis des semaines?
Non.
Il va, si la maison l'intéresse, il va avoir la pression parce qu'on ne l'a pas encore diffusé. Donc nous, on va jouer là-dessus. Et en fait, un professionnel, un bon vendeur, le même produit, il est capable de le vendre plus cher. Vous avez une idée précise de du prix de vente de votre maison?
Alors, ça faisait 400 000 euros.
400 000, 400 000, 410, 420?
C'était ce que j'allais vous dire. Est-ce que dans ce cas-là, si c'est vous qui prenez le mandat, est-ce qu'on ne peut pas augmenter, en fait, inclure votre commission à la hausse dans le prix de la maison?
On va changer de sujet pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Est-ce que demain, vous pensez que votre voiture, vous voulez vendre votre voiture, on change de sujet, est-ce que vous pensez qu'elle sera vendue plus cher si elle est sur un parking au milieu d'autres voitures ou si elle est sur une estrade mise en valeur avec des hôtesses autour?
Bah, si elle est sur une estrade, bien entendu.
Voilà. Notre métier, ça va être ça. Ça va être en fait de diffuser votre bien de la meilleure des manières. Quand vous allez diffuser sur un site ou deux, nous, on a 15 ou 20 sites. On a des magazines, on a une vitrine, on a un portefeuille client, on peut leur envoyer des mails. Donc en fait, tout ça, ça va nous permettre de mettre en valeur votre bien, bien plus important que vous, et du coup, de le vendre plus cher.
Alors ouais, mais en fait, moi, je vais vous payer pour faire visiter ma maison, et je pense que la personne qui est le mieux placée pour faire visiter ma maison, ça reste moi quand même, entre vous et moi.
Tout à fait, vous la connaissez, vous vivez dedans. Sauf qu'en fait, on ne parle pas de vous, on parle des acquéreurs. Et du coup, en fait, pour vendre une maison, il ne faut pas connaître le vendeur, il ne faut pas connaître la maison, il faut connaître les acquéreurs. Et c'est là-dessus que l'agent immobilier va faire la différence. Quand nous, on va avoir un appel d'un acquéreur, on va faire une découverte. On connaît sa vie, on sait ce qu'il a visité, on sait ce qu'il aime. Peut-être qu'on a déjà été chez lui, qu'on voit pourquoi il veut changer, on connaît ces raisons-là. Et du coup, quand on va faire la visite, on va s'adapter à ça. Si moi, demain, je viens vous visiter votre maison, vous ne savez pas que j'ai 3 enfants. Vous ne savez pas si je suis bricoleur, pas bricoleur, vous ne savez pas où je travaille, vous ne savez pas ce dont j'ai vraiment besoin. Et tout ça, ce sont nos arguments. Nous, on va le savoir parce qu'on a fait une découverte avec le client et on va vraiment appuyer là-dessus. Ensuite, le deuxième point, c'est que certes, vous connaissez très bien votre maison, mais vous êtes le vendeur. Quand vous allez dire à l'acquéreur, c'est super calme ici, il va avoir un filtre, vous êtes le vendeur, vous allez peut-être lui raconter n'importe quoi pour vendre. Nous, on est conseiller, on est de son côté aussi. On est l'intermédiaire, donc si on lui dit que c'est calme, il y a beaucoup plus de chances qu'il nous croit, nous, que vous.
Ok, j'entends tout ça. J'ai un dernier point à vous demander. Là, vous m'avez parlé de découverte client, etc. Est-ce que vous êtes capable, avant chaque visite, de me présenter cette découverte client pour me montrer le travail que vous avez effectué?
Sans problème. Vous savez, on est sur un métier où on est payé au résultat. Donc, nous, on ne fait pas des visites pour faire des visites. On n'est pas payé à la visite. Donc en fait, obligatoirement, avant chaque visite, on fait une découverte totale. Et d'ailleurs, avant d'organiser une visite, je vous ferai un résumé des acquéreurs qui vont venir, pourquoi ils viennent, ce qu'ils ont déjà visité, leur motivation. On vérifie aussi tout ce qui est financement, leur plan de financement. On a de l'expérience, on a des partenariats avec des courtiers. Donc on va vraiment là-dessus vous apporter des informations qui vont vous prouver ce que je vous dis.
Je vous remercie Cyril. Et vous savez quoi? Je vous donne les clés. C'est une maison de ville à Montreuil, située mairie de Montreuil. J'en veux entre 390 et 410 000 à la fin dans ma poche.
Eh ben on va essayer 410.
Et je vous remercie.
À bientôt.